Au Capidance, du rythme et de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, d'un circuit d'ailleurs, tous les tempos mixés par DJ Daddy. Au Capidance, les mercredis jeudi de 21h à minuit, le samedi, Megamix de 19h à minuit.
Je réfute totalement ce qui se
passe.
Bonjour à tous et merci de nous écouter et nous sommes ensemble pour près de 57 minutes d'échange et de partage. Du 4 au 7 juillet 2012, courant, les défenseurs des droits de l'homme, les autorités congolaises, les partenaires publics comme privés, ainsi que les représentants des organisations de système des Nations Unies se sont penchés sur la situation des défenseurs des droits de l'homme en RDC afin de trouver un consensus sur le projet de loi portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme et le renforcement des mécanismes de protection. Les participants à ces assises ont proposé aussi que le gouvernement prenne en compte les projets de loi portant création d'une commission nationale des droits de l'homme, celui portant la mise en œuvre du statut de Rome et la création d'une cour mixte spécialisée ainsi que la mise en œuvre de la cour constitutionnelle. Que pensez-vous de ces mesures dans la protection des défenseurs des droits de l'homme? Nous en parlons avec Fernandez Mourola, secrétaire exécutif national du RINADOC, réseau national de ONG de défense des droits de l'homme. 081-890-6315, c'est notre numéro pour les interventions en direct, mais aussi un commentaire sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Serez les bienvenus dans cette émission.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et J.R. Lungembo, Tatimputu, Alain Goy sont à la réalisation de cette émission supervisée par Nicole Ngakia, 081-890-6315. Notre numéro d'appel pour intervenir en direct. Plusieurs mesures ont été arrêtées au cours de cette deuxième table ronde nationale des droits de l'homme en RDC pour parvenir à la protection des défenseurs des droits de l'homme. Nous en parlons avec vous, vos propositions, votre point de vue, mais aussi vos réactions sont les bienvenues dans cette émission. Nous en parlons, comme je le disais, avec Fernandez Mourola, vous êtes le secrétaire exécutif national du RINADOC, réseau national des ONG des droits de l'homme. Bonjour et bienvenue au studio de Radio Capi.
Bonjour.
Vous avez participé, je crois bien, à cette table ronde, la deuxième table ronde, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut retenir des grandes lignes qui ont été arrêtées par rapport au volet protection des défenseurs des droits de l'homme?
Oui, merci beaucoup. En fait, la deuxième table ronde qui a eu lieu à Kinshasa du 4 au 7 juillet 2012, c'est un mécanisme d'abord annuel, un mécanisme annuel de dialogue entre les défenseurs des droits de l'homme et les autorités publiques de notre pays pour échanger sur un certain nombre de questions pendantes, des questions pertinentes, des préoccupations majeures des défenseurs des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme dans notre pays. Alors, on a passé en revue tout ce qui bloque l'effectivité en termes de justice par nos populations des droits de l'homme. Et donc, nous avons abordé, comme vous l'avez bien dit, de la question de la commission, de l'urgence pour notre pays d'avoir une commission nationale des droits de l'homme, de l'urgence pour notre pays d'avoir une commission mixte spécialisée, une cour mixte spécialisée, d'une cour constitutionnelle, ainsi que de l'urgence pour que notre pays soit doté d'une loi portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme à la République démocratique du Congo. Voilà, en grande ligne, les questions essentielles. Et nous avons abordé d'autres questions, notamment liées au déficit fonctionnel de l'entité nationale de liaison des droits de l'homme.
Voilà. Le conseil qui, en fait, qui concerne la loi protection, portant protection des défenseurs des droits de l'homme, il y a un débat qui a été ouvert autour de ça. La loi a été, les projets de loi a été présenté à l'Assemblée, à l'ancienne Assemblée nationale par l'ancien ministre Lizo Lobambi. Le débat a été engagé. Il y avait des gens qui pensaient que c'était pas important d'avoir une loi spécifique pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. Tel est aussi le cas d'une commission nationale des droits de l'homme. Mais juste à ce niveau, qu'est-ce qui a été dégagé dans les consensus par rapport à ces deux lois qui devaient en principe s'accompagner?
En fait, ce qui est vrai, c'est que nous sommes pratiquement au niveau à la case du départ. Et la loi portant, instituant la Commission nationale des droits de l'homme a été adoptée déjà, l'avant-projet a été adopté au niveau du Sénat il y a de cela 2 ans. Et nous sommes en train de faire le plaidoyer pour que la Chambre basse, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, puisse aussi l'adopter comme il se doit pour que quand même nous ayons ce mécanisme qui est important. Et nous sommes en train d'insister pour que cette Commission nationale des droits de l'homme soit instituée sur base du principe de Paris. Concernant l'avant-projet de loi portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme, nous saluons les initiatives qui ont été entreprises par le ministre Lizo Lobambi. Nous louons et nous le saluons en passant parce qu'il s'était engagé fermement, coréen, mais malheureusement au niveau du Parlement du Congolais, ils ont bloqué l'adoption de cet avant-projet de loi. Et pour le moment, nous sommes en train de nous battre pour que la législature actuelle puisse mettre ça au centre des préoccupations. Et ça fait l'objet de notre plaidoyer depuis que la nouvelle Assemblée nationale a été mise sur pied.
Voilà, nous allons examiner tout cela parce qu'il y a beaucoup d'autres mesures, que ce soit aussi les statuts des Roms, que ce soit les cours mixtes spécialisés et aussi la mise en œuvre de la Cour constitutionnelle. Ce sont les différentes mesures qui ont été arrêtées au cours de cette table ronde. On va examiner ensemble avec les auditeurs comme Garba qui est à Congolo, Ernest qui est à Matadi. Vous avez besoin d'intervenir, messieurs. Vous avez suivi l'introduction avec notre invité. Votre point de vue par rapport à ces mesures, pensez-vous que cela est vraiment efficace pour parvenir à assurer la protection des défenseurs des droits de l'homme? Garba, vous êtes avec nous sur les antennes des Congolais dans la province de Katanga. Bonjour. Garba, vous êtes sur les antennes, bonjour. Il y en a de plus aussi avec Garba qui est à Congolo. Nous allons à Matadi. Ernest, vous êtes avec nous. Bonjour, Ernest.
Bonjour.
Donc, vous écoutez, vous avez suivi quelques mesures arrêtées au cours de cette table ronde, ce qui doit être fait pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. Quel est votre point de vue? Qu'est-ce qui peut encore être fait au-delà de ce qui a été proposé, Ernest?
Merci bien. Nous pensons que la première chose à reconnaître, c'est de faire comprendre aux législateurs congolais ou à l'ensemble de la population que la chose principale à protéger, c'est le droit de tout un citoyen congolais. Et lorsque je vois tout ce qui est lié à la vie des hommes, tout ce comme un droit, on ne peut pas dire droits humains, parce que ça est exactement tout est droit, droit à la vie, droit à la naissance, droit à un nom, droit à la scolarité, droit au bourse, droit à l'électricité, droit à l'accès à la santé, tout est droit. Si le législateur comprend que tout est droit, je dois accepter de la partie qui sont à l'Assemblée au pouvoir dans toutes ces études-là. Il y a une force extérieure à côté, ce qu'on appelle les associations des droits des hommes, qui sont des associations de la société civile. Le fait que ces gens, on peut maintenant voir quels sont parmi les droits, ceux qui sont les zéros qui sont piétinés chaque jour. C'est comme ça qu'on va équilibrer pour ramener l'homme au centre de la vie, au centre de la préoccupation de l'action politique. C'est comme ça que moi, je me dis, tout ce que j'ai suivi la formation en droit des humains, mais parfois on se dit, dans quelle condition nous allons travailler? Dans quelle condition on peut faire un rapport? On a parfois l'accès difficile à certaines situations pour prévaloir ou défendre une situation quelconque de compatriotes. Donc, ce que je dis, la première chose à savoir, c'est que la vie, c'est tout. Dans l'ensemble, ce sont des formes de droits. Si les législateurs comprennent que tout est droit, on doit maintenant s'ajuster à accepter les autres qui sont en dehors du structure gouvernementale qui observent que ces droits n'est pas bien effectué, n'est pas bien respecté, pour que les lois nationales qu'on peut proposer par les populations des droits de l'homme soient acceptées et incorporées dans nos lois internes. Comme ça, au niveau extérieur, il y aura une symbiose Non, on ne va peut-être pas compliquer l'extérieur et nous n'aurons pas les temps de les
appeler. Voilà, merci. Merci Ernest. Voilà. Merci Ernest. Vous pensez que le problème doit être considéré dans la globalité, hein, le respect des droits de l'homme dans leur globalité, partir de tous les droits fondamentaux de l'homme et incorporer dedans tous les textes aussi pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas encore considéré le respect des droits de l'homme dans leur globalité, il sera aussi difficile de pouvoir spécifiquement protéger les défenseurs des droits de l'homme. Il faudrait prendre le compte dans sa globalité. Merci beaucoup Ernest de Matadi, ici à Kinshasa, où nous avons Jean qui est avec nous. Bonjour Jean.
Bonjour Monsieur le Sénat, bonjour parole aux auditeurs.
On vous écoute.
Ok, merci. Merci de m'avoir accordé la parole. Pour ce qui est, je ne voulais pas vraiment de grandes choses, mais le grand problème, c'est qu'on peut adopter cette loi par l'Assemblée nationale, c'est une bonne chose, parce que ça va protéger. Mais est-ce qu'on va l'appliquer? Parce que nous avons les problèmes d'application des textes dans notre pays. Imaginez seulement, depuis la législature passée jusqu'à aujourd'hui, que des lois on n'a pas votées au Parlement. Mais combien sont les problèmes de suivi? Alors, donc, nous soutenons quand même cet effort-là, et puis peut-être, ce que je voulais souligner, que les gens puissent aussi apprendre à la population ces droits de l'homme. Parce qu'on m'a toujours parlé des droits de l'homme, mais même pas mal d'intellectuels ne savent pas quels sont ces droits-là et comment les défendre. On dirait que dans notre pays, nous avons seulement plus de devoirs que de droits. Nos droits, même nous-mêmes, les populations, ne connaissons pas. Et ça pose aussi problème. Même comment vous allez défendre, comment vous allez déposer plainte si vous-même, vous ne connaissez pas vos droits et comment les défendre. Bah, moi, je suis quand même qu'on puisse initier cela et qu'on puisse, mais le Parlement puisse adopter cela, ce serait une bonne chose. Mais pour nous, le bas, c'est qu'on nous apprenne aussi nos droits et nécessairement nos devoirs.
Oui, voilà. Oui, Jean, pour aider aussi les autres auditeurs, nous n'allons pas parler dans la globalité des droits de l'homme parce que vous avez suivi cette loi. Cette proposition, ce projet, si je peux dire ainsi, des lois, porte sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Voilà, c'est ce que nous voulons. Quelles sont les mesures qui doivent être prises pour protéger les défenseurs des droits de l'homme? Vous pensez aussi qu'il revient à sensibiliser aussi à la population sur les droits, que chacun puisse connaître les droits. Mais le point important dans ce que vous avez dit, il ne suffit pas d'avoir une loi, mais il faut que la loi, si elle est adoptée, promulguée, qu'elle puisse être mise en application pour vivre effectivement la protection des défenseurs des droits de l'homme. Nous pensons maintenant que la ligne avec Garba qui est à Congolo s'est améliorée. Garba, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Pierre Lamouchi, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous avez suivi notre problématique, c'est comment arriver à une effectivité, n'est-ce pas, de la défense, de la protection des défenseurs des droits de l'homme. Plusieurs mesures ont été arrêtées, mais pour vous, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Et dans votre milieu, pour que ces défenseurs des droits de l'homme soient protégés, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, Garba?
Ok, merci beaucoup Pierrot et la Michi, je disais encore que bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. C'est-à-dire, apparemment, selon le sujet du jour, moi je suis en train de voir que les droits de l'homme ici au Congo, c'est comme dans le temps le plus ancien où les Blancs ont amené quand même les églises pour endormir la population congolaise en leur promettant un au-delà meilleur, alors que l'au-delà meilleur n'existera et n'existera plus nulle part dans le monde. C'est-à-dire, malgré que toutes les lois qu'on est en train d'élaborer pour dire que les droits de l'homme, nécessairement, les gens doivent être protégés. Apparemment, les gens ne sont pas protégés, d'autant plus qu'il y a toujours des tueries, il y a des maîtres, il y a ça. Les mêmes gens qui sont en train de sauver ces lois, ce sont les mêmes personnes qui sont à la base de toutes ces tueries là-bas. C'est pourquoi moi, je suis en train de voir que vraiment, les droits ici, on connaît les droits de l'homme, ne pas suivre parce que nous avons notre confesseur de maestrière qui était abattu à Bouporta. Il y a vraiment, c'est difficile de vous donner les statistiques des gens qui sont déjà décédés par rapport à ça. Et les droits de l'homme en train d'observer, en train de contempler, il n'y a que rien peut-être que deux jours, trois jours que les dossiers suivis, à la fin de compte, ça se clôture par une situation vraiment très compliquée. Il n'y a même pas de suivi. Les mêmes gens qui ont instauré les lois, ce sont les mêmes gens qui sont à la base des tueries. Et comme vous faites le suivi des dossiers, vraiment le résultat est non escompté. Voilà ce que j'allais à vous dire.
Merci beaucoup Garba. Vous pensez pour vous que les lois peuvent exister mais on ne les applique pas? Vous accusez les mêmes personnes qui promulguent, qu'il faut dire ainsi, qui mettent en place des lois, ce sont les mêmes qui les violent. quand il s'agit d'un assassinat, vous avez donné l'exemple d'un journaliste de Radio Capi, Serge Maïchi, et vous avez dit qu'il y a beaucoup de fatigue par rapport aux défenseurs des droits de l'homme. S'ils sont assassinés, c'est quelques jours, deux, trois jours, on en parle, et après, il n'y a pas de suivi. Et vous êtes très sceptique hein, sur l'influence de cette loi par rapport à la défense, à la protection des défenseurs des droits de l'homme. Nous allons en Bouge-Maille, au Kassai Oriental. Placide, vous êtes avec nous. Bonjour. Placide, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Vous avez suivi notre ami des Congolais, c'est comme Jean de Kinshasa, il pense que la loi, elle ne suffit pas pour arriver vraiment à une effectivité des protections de défenseurs des droits de l'homme. Quel est votre point de vue, Placide?
Oui, d'accord, merci, vous avez reçu la parole. Moi aussi, j'adore toujours dans le même sens. C'est-à-dire, bon, les lois, on peut en publier comme on veut, mais tant que le gouvernement, nous, les gens qui publient d'abord ces lois-là, considère la vérité comme un crime. Parce que les acteurs de droit de l'homme disent qu'ils veulent souvent la vérité et que même cette vérité est en train de blesser le gouvernement, ceux qui dirigent, c'est pourquoi ils sont toujours malmenés. Et ils font semblant en publiant certaines lois, soi-disant les protégeant, or, qui peuvent encore les enfoncer. Nous avons beaucoup d'exemples ici en Bougeman, quand il y a des gens qui passent à la radio, ils disent, quand même, ils disent la vérité, mais comme ça blesse le gouvernement, ça, ils sont maintenant attaqués, ils sont menacés partout.
Voilà, merci beaucoup, Placide, vous êtes en Bougeman. Nous allons revenir ici au studio avec notre invité pour commenter ce point de vue des auditeurs, mais aussi quelques questions que nous avons par rapport à ces concepts de défenseurs des droits de l'homme. Vous êtes très nombreux à vouloir intervenir. 0401 890 6315, c'est notre numéro d'appel pour les interventions en direct. Mais vous pouvez également déposer un commentaire sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs.
Paroles aux auditeurs.
Oui, Fernandez Mourola, il y a des problèmes. D'abord, les gens pensent qu'on peut avoir autant de lois, autant d'instruments juridiques, que ce soit internationaux, que ce soit nationaux, mais ils ne pensent pas que cela peut résoudre le problème de la protection des défenseurs des droits de l'homme. Mais on peut aussi revenir pour permettre aux auditeurs de comprendre ce concept de défenseur des droits de l'homme, qui est défenseur des droits de l'homme, qui ne l'est pas, mais aussi sa part des responsabilités. Vous avez suivi, l'auditeur dit qu'il y a un problème du pouvoir public qui a peur de la vérité, qui considère la vérité comme un crime. Mais est-ce que dans tous ces problèmes de violation de droits des défenseurs des droits de l'homme, y a-t-il aussi une part des responsabilités des défenseurs des droits de l'homme ben voilà un peu les trois volets des préoccupations.
Oui, merci beaucoup. Donc, au nom du réseau national des ONG de droits de l'homme de la République démocratique du Congo, RENADOC, et je tiens à remercier tous les auditeurs de Radio Capi qui ont soulevé des questions pertinentes et qui sont par ailleurs fondées. Et je tiens à préciser trois choses suivantes. D'abord, au niveau de la République démocratique du Congo, nous avons un sérieux problème. C'est le fait que notre pays, depuis son accession à l'indépendance, est toujours dépourvu d'une politique nationale des droits de l'homme. Ça, c'est une question majeure et fondamentale. Un pays sans politique nationale des droits de l'homme veut dire quoi? Veut dire, en d'autres termes, que les actions des droits de l'homme qui sont amorcées, aussi bien au niveau des particuliers, au niveau des privés que des publics, sont des actions qui viennent comme si elles tombaient de je ne sais où. Ce sont des actions qui ne sont pas échelonnées pour des résultats durables et ça pose problème. Donc, ce que nous avons toujours invité nos autorités lorsque nous nous rencontrons avec au niveau de l'entité nationale de liaison des droits de l'homme, nous avons toujours insisté sur la nécessité de doter ce pays d'une politique nationale des droits de l'homme. Ça, c'est un. De deux, que toutes nos autorités, de la base au sommet, puissent intérioriser les droits de l'homme. De trois, que toutes nos autorités sachent qu'au-delà des lois de la République, la Constitution et toutes les lois du pays, notre pays a ratifié autant d'instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme qui ont forcé des lois à la République démocratique du Congo. Ça, c'est capital, mais malheureusement, il n'y a pas d'intériorisation. Les auditeurs doivent savoir que les ONG de droits de l'homme jouent ce qu'on appelle les rôles supplétifs au gouvernement. La promotion et la protection des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national, en tout lieu et en tout temps, revient au gouvernement. C'est la responsabilité et même l'obligation de l'État de le faire. Nous ne faisons que jouer ce qu'on appelle les rôles supplétifs. Et quand, malheureusement, au niveau de notre pays, nous n'avons même pas un programme national de promotion et de protection des droits de l'homme. Oui, c'est un problème. Nous avons mis en place et nous saluons les initiatives qui ont été entreprises pour que nous ayons aujourd'hui une entité nationale de liaison des droits de l'homme qui est un cadre interinstitutionnel de dialogue entre les défenseurs des droits de l'homme et les autorités. Voilà. Et là, le président de l'entité nationale de liaison, c'est le premier ministre lui-même. Toutes les institutions du pays se retrouvent au niveau de l'entité de liaison. Mais pourquoi le premier ministre ne convoque pas la réunion de cette entité de liaison pour qu'on traite les questions majeures des droits de l'homme? Ça pose problème. Et donc, tout ça, ça fait partie des préoccupations majeures. Il y a la question qui a été soulevée de savoir qui est défenseur des droits de l'homme. Il ne suffit pas d'être formé, on vous donne un brevet pour dire que vous êtes défenseur des droits de l'homme. Non. Un défenseur des droits de l'homme, c'est celui qui s'engage toute sa vie à défendre les autres, à défendre les sans-voix, à défendre les causes perdues, à défendre les marginalisés. C'est quelqu'un qui est prêt à être arrêté à tout moment, à être détenu à tout moment, à être torturé à tout moment, et même à mourir s'il le sait. Et donc, quand quelqu'un n'est pas prêt à ce sacrifice, il ne peut pas s'appeler défenseur des droits de l'homme. Voilà en gros.
Mais c'est par rapport à la responsabilité, parce que quand on parle des arrestations, est-ce que dans toutes les arrestations des défenseurs des droits de l'homme, il y a seulement l'État ou les pouvoirs publics qui peut être en erreur? Y a-t-il aussi des responsabilités par rapport aux défenseurs des droits de l'homme qui peuvent le mettre en mal, des fois avec les pouvoirs publics?
Oui, naturellement, beaucoup de défenseurs des droits de l'homme sont tombés à cause de l'intolérance dans notre pays. Vous savez, nous sommes appelés à dire la vérité. Les institutions de l'État adoptent les lois, ont promis les lois, etc., etc. Mais nous, ce que nous faisons que surveiller la mise en œuvre de ces instruments nationaux, régionaux, internationaux. Est-ce que les contenus de nos lois sont appliqués à tous les niveaux? Lorsqu'on remarque que les lois, nos propres lois sont violées par nos propres autorités, là, nous dénonçons. Et c'est ce que nous faisons comme travail.
Mais c'est effectivement parce qu'on sait, comme l'a dit notre ami de Bougimaï, qu'il y a un problème de la vérité qui est considéré comme un crime. On sait plusieurs fois, on a entendu des fois les autorités dire que les défenseurs des droits de l'homme peuvent être des fois instrumentalisés, que ce soit par les acteurs politiques, que ce soit par d'autres ONG. C'est pour cela que je reviens sur la question de, c'est comme on parle en journalisme, les codes d'éthique des journalistes pour les journalistes. On peut arrêter quelqu'un, on peut dire que le pouvoir public a arrêté, mais aussi le journaliste peut se retrouver dans une situation où il a violé lui-même son code d'éthique, qui le met en mal déjà en face du pouvoir public. C'est pourquoi je reviens sur cette question de la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme dans tous les actes qui sont posés.
Tout à fait. En fait, les défenseurs des droits de l'homme sont avant tout des citoyens comme tous les autres citoyens. Ils doivent respecter les lois de la République. Parce qu'on ne peut pas défendre les droits de l'homme alors que soi-même, on ne sait pas respecter les lois de la République. Ça, c'est hors de question. Et donc, si jamais un défenseur des droits de l'homme viole les lois de la République, on doit absolument aussi, il doit répondre de ce qu'il a commis comme défenseur des droits de l'homme. Mais c'est dans les rares des cas qu'on arrive à voir un défenseur des droits de l'homme qui connaît très bien les règles, les principes, les droits, et qui arrive à les violer. Ça arrive rarement. Mais je ne peux pas dire que ça ne peut pas arriver, mais ça arrive rarement.
Donc voilà. Nous avons Pierrot qui est à Chilénie, au Kassai Oriental, Jado est à Loubero, au Nord Kivu, Jean est à Awa qui est en province orientale. On commence avec vous, Pierrot, vous êtes avec nous sous les antennes, bonjour.
Bonjour,
Donc, vous avez suivi notre problématique dans cette émission, c'est comment arriver à protéger les défenseurs des droits de l'homme, plusieurs propositions, mais aussi des points de vue et des commentaires dans cette émission. On vous écoute, Pierrot.
Oui, merci beaucoup. Je veux seulement vous dire que quand on parle de la protection, mais qui va protéger les défenseurs des droits de l'homme? L'État. Mais quand l'État même, il est censé élaborer les lois de la protection, il ne les protège pas. Donc, on est de la chose aussi, on se tient son contraire. Alors moi, je voulais seulement vous dire, moi-même, j'ai été victime. Une fois, je trouvais un essai là, un policier, il avait, avec un essai là, je suis dit, il avait détenu, et quand j'ai essayé de demander le pouvoir, le policier m'a recommandé, il m'a dit, ici, bon, je me suis présenté, il m'a dit, écoutez, ici, vous savez que votre ami a été assassiné, je ne sais pas si c'était à l'Union à quelle année, je ne sais pas si c'était à HDA. Et aussi, les policiers ne connaissent pas celui qui est défenseur des droits de l'homme. Alors moi, je voulais seulement vous dire aussi qu'il faut que la police sache celui qui est un défenseur des droits de l'homme. À partir de là, s'il y a des leçons, s'il y a des formations auprès des agents de la police, auprès des OPJ, et qu'ils connaissent celui qui est un défenseur des droits de l'homme, ça aussi est. Parce que ce sont eux qui souvent réprimandent les défenseurs des droits de l'homme. Surtout que l'État lui-même les a remis des armes. On remet quelqu'un une arme, et quelqu'un qui n'est pas. À qui on ne prie même pas, avec cet arme-là, il est en train de se servir avec ça pour faire n'importe quoi. Alors nous disons que les policiers, les OPJ, puissent aussi être informés.
On suit le rôle de défenseur des droits de l'homme. Merci beaucoup, Pierrot. Vous êtes à Kilenyé. Vous pensez qu'il faut une sensibilisation, une formation aux agents de service de sécurité, aux agents de l'ordre, par rapport aux défenseurs des droits de l'homme et le rôle qu'ils jouent. Merci beaucoup pour cette proposition. Vous êtes au Casse-Oriental. Nous avons à Loubérou, Jadot. C'est dans le nord Kivu. Bonjour, Jadot.
Bonjour Pierrot et la mesure, bonjour tous les auditeurs de la radio Okapi. Je suis précisément à Masereka, c'est en territoire de Lubero, en province du Nord Kivu. La question pour vous, que nous sommes en train de traiter aujourd'hui, c'est une grande question, une question qui attire au moins l'attention de tous les Congolais. Vous savez, moi, la première question serait adressée à l'invité à la radio. Est-ce que dans cette proposition de loi, on a défini les cadres de travail et se défendre des droits de l'homme. Est-ce qu'on a donné un statut spécial en se défendre des droits de l'homme? Et dans quel cadre de travail se défendre des droits de l'homme pourra-t-il travailler? Parce que ce sont les grandes questions comme celles-là qui doivent nous aider à savoir comment cette loi-là, parce que la loi, c'est quoi? La loi, elle doit porter sur l'identification d'abord du cadre du travail, de la société du travail, et maintenant les animateurs, quel doit être le profil de ces animateurs? Alors est-ce que dans cette loi-là, le profil des facteurs des droits de l'homme est qu'il est dedans? Ce sont les questions que je pose à l'évité avant que je donne mon impression par rapport au cadre du travail du facteur des droits de l'homme. Vous savez, ici comme chez nous, à l'Est, Le constat que nous avons réalisé, c'est que les défenseurs des droits de l'homme eux-mêmes s'exposent à beaucoup de risques. Comment? Je m'explique. Nous sommes dans une zone rouge, vous êtes défenseur des droits de l'homme, vous commencez aussi à vous ériger à une institution de la République, c'est-à-dire en allant au-delà de vos prérogatives. Comment comprendre que, par exemple, dans une zone rouge où il y a des rebelles, quelqu'un va ériger son bureau comme défenseur des droits de l'homme et il commence aussi à juger et il commence à faire des invitations, demander à ce que les gens viennent s'expliquer chez lui, il va commencer à exprimer même des amendes à certaines personnes pour tel ou tel autre problème et on se dit, est-ce que ces défenseurs des droits de l'homme connaissent leur travail? Est-ce qu'ils connaissent qu'est-ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent mener cette lutte de défense des droits de l'homme? Deuxième observation,
allez-y c'est rapidement, Jadot.
Est-ce que... Oui.
Oui, Jadot, oui.
Deuxième observation, on s'écoute.
Deuxième observation
relative à ce qu'on appelle la priorité. Est-ce qu'avoir une loi, c'est ça la priorité? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas de loi que les défenseurs des droits de l'homme ne sont pas protégés? Parce que vous voyez la scénario juridique que nous avons dans ce pays, il y a déjà là quelque chose qui fait en sorte que même les défenseurs des droits de l'homme seraient déjà protégés, tout en connaissant la loi, tout en sachant qu'elle ne doit pas faire ceci. Tout en connaissant le cadre de ce travail, il y a déjà une protection sous-entendue parce que lorsque vous ne faites pas, vous ne posez pas des actes contraires à ce que vous êtes demandé,
et de faire dans la société. Automatiquement, là, vous faites une propre protection.
Voilà, merci.
Même la déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple.
Merci.
La déclaration du.
Voilà, merci. J'adore. On a beaucoup d'auditeurs en ligne. On a retenu d'abord. Vous avez posé la question à notre invité, celle de savoir s'il y a dans le projet de loi, on a prévu un statut, les cadres de travail des Français droits de l'homme, un statut spécial aussi. Et vous êtes revenu sur des cas pratiques là où vous êtes à l'Ubéro. Si un Français des droits de l'homme s'érige en une institution pour convoquer les gens, les entendre, et puis aussi, hein, entre guillemets, vous avez dit, jusqu'à juger les gens et les infliger des amendes pour avoir. Et au-delà de tout ça, vous pensez que, est-ce que la loi, c'est une priorité pour la protection des Français des droits de l'homme? Merci beaucoup, Jadot de l'Ubéro. C'est dans la province du Nord qui vous. Jean de Ouattia et celui de Kinshasa, vous gardez la ligne, on va vous accorder la parole le temps que l'invité puisse commenter ses points de vue des auditeurs et aussi ses questions qui lui ont été adressées directement.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Piero Lamé.
Fernandez Mourola, vous avez suivi les auditeurs. Il y a Jadot qui est revenu vraiment sur quelque chose de très important, c'est les spécificités au niveau du projet de loi. Y a-t-il un cadre de travail? Y a-t-il un statut spécial pour les défenseurs des droits de l'homme? Mais aussi, Piero, il y a beaucoup insisté sur la sensibilisation des services de sécurité, de la police, hein, de tous ceux-là qui sont plusieurs fois accusés de pouvoir bafouer ou bien torturer ou arrêter les défenseurs des droits de l'homme, qu'il faut aussi qu'ils soient sensibilisés sur les défenseurs des droits de l'homme. Voilà autant de propositions qui sont vraiment qui sont soulevées par les auditeurs.
Oui, merci beaucoup. En fait, si nous sommes arrivés à initier cet avant-projet de loi pour la promotion et la protection des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo, c'était pour répondre pratiquement à l'ensemble des préoccupations soulevées par M. Jadot. Mais je vais lui dire ceci, que si jamais il constate qu'il y a le bureau des défenseurs des droits de l'homme qui font le travail qui n'est pas le leur, il peut saisir immédiatement les RENADOC en appelant le numéro vert du réseau national des ONG des droits de l'homme au 0810-8012. Il peut toujours aussi nous saisir s'il voit aussi des autorités qui sont en train de violer intentionnellement les droits de l'homme. Là, il n'y a pas aussi de problème, il peut toujours pour saisir à ce même numéro. Et le cas SEA, comme il est à Benigouverro, je le recommande, de transmettre le cas de l'association dont il a parlé à notre organisation qui est basée sur PAS, qui s'appelle GADOP, qui est le groupe des associations de défense des droits de l'homme de Benigouverro. Il peut le contacter et puis on va s'occuper du défenseur des droits de l'homme qui
marche en marge, bien sûr,
du règlement des lois. Donc je lui confirme que le projet de loi qui a été transmis au niveau de l'Assemblée nationale intègre tous les éléments, notamment les profils des défenseurs des droits de l'homme, les cadres de travail, ainsi que ça parle un tout petit peu de l'éthique aussi, et ça nous donne un certain nombre de lois ou des prérogatives ou une protection spécifique par rapport au métier que nous faisons. Vous savez, nous faisons un métier très difficile et très compliqué. Notre travail consiste à défendre l'ensemble du territoire national, l'ensemble de nos populations. Et donc, nous devons avoir un mécanisme de protection spécifique. Nous défendons et les ministres et les généraux, tout le monde qui est victime de violations des droits de l'homme sans tenir compte de son origine ou de sa couleur.
Voilà, mais il y a cette préoccupation de Pierrot qui a pensé qu'il y a une forte sensibilisation auprès des policiers, des services de sécurité par rapport au rôle même du défenseur des droits de l'homme. Et quand vous regardez, si on regarde dans l'histoire, même la première table ronde et à la deuxième, y a-t-il eu des avancées par rapport à cet angle-là de la sensibilisation des policiers, de tous ceux qui sont accusés, n'est-ce pas, de pouvoir violer les droits des défenseurs des droits de l'homme? Est-ce qu'il y a eu d'amélioration sur le terrain depuis plusieurs plaidoyers?
En fait, nous avons un programme qu'on appelle Droits de l'homme et éthique professionnelle, destiné aux policiers. En fait, mais c'est un programme qui souffre parce qu'on ne sait pas le matérialiser, le pays est trop vaste. Hein? Mais nous sommes en train d'inviter le gouvernement à adopter une politique nationale des droits de l'homme. C'est en fait qu'il appartient au gouvernement de former ceux qui sont appelés à appliquer la loi et de ne pas en même temps violer les droits de l'homme et les droits de nos concitoyens. Donc nous pensons que demain ou après-demain, on va mettre en œuvre ce programme pour que nos policiers soient avant tout des défenseurs des droits de l'homme et non les violateurs des droits de l'homme. Il en est de même de tous ceux qui animent le service de renseignement, les services de sécurité et même tous nos officiers au niveau de l'armée.
Mais quel va être alors le rôle de la Commission nationale des droits de l'homme si jamais cette commission est mise en place?
En fait, cette commission, c'est une institution citoyenne qui aura aussi pour mission, pour mandat de promouvoir les droits de l'homme. Donc, les droits de l'homme n'est pas l'affaire de seul l'État. Donc, la commission générale sera au niveau du pays comme l'institution habilitée à promouvoir les droits de l'homme. Et dès qu'on va mettre en place la Commission nationale des droits de l'homme, il appartiendra au gouvernement de donner des moyens suffisants pour que cette commission fasse correctement son travail. Parce que si on met en place aussi une commission, ça lui donner les moyens de sa politique. La commission ne va rien faire par rapport à l'étendue du territoire national, mais aussi par rapport à la complexité de tous les problèmes. Vous connaissez que notre pays, c'est vraiment aussi un patient des crimes imprescriptibles. Il y a des criminels de toute nature qui sont là, et parce que tout à l'Est, on est en train de les revoir, apparaître, et qui prennent en otage tout un pays pendant des décennies, c'est inconcevable. Et donc, cette Commission nationale des droits de l'homme devra établir sur toutes ces questions aussi.
Voilà. Nous avons Jean, et Jean, deux gens, bien sûr, à Kinshasa, en province orientale, et Ismaël qui est à Lubumbashi. On commence avec vous, à Ouakia. Vous êtes en province orientale, Jean, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à notre invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi. Je suis Jean-Côte Yokoba, je vous appelle Awata, c'est un territoire qui se situe à quelques 800 km de la ville de Kisangani.
On vous écoute par rapport à ces propositions sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Et merci pour les précisions par rapport à là où vous êtes et la distance avec la ville de Kisangani. C'est très bien. Non, Jean, on vous écoute.
Oui, monsieur le journaliste, nous connaissons que les droits se définissent comme ensemble des règles qui régissent les rapports des hommes constituant une même société. Par contre, dans notre pays ici, les hommes politiques veulent régner en maître absolu. S'ils tuent ou bien s'ils détournent les fonds publics, qu'on n'en parle pas. Raison pour laquelle les activistes des droits de l'homme sont aujourd'hui exposés du danger. Grâce aux informations qui nous parviennent, nous connaissons comment que les activistes des droits de l'homme sont massacrés. Tel est le cas de Floribert Chebeya. Il a été sauvagement assassiné dans sa voiture et on a monté des pièces de tout genre pour dire que non, il avait des condoms du sang pareil à ses côtés. Bon, j'ai quelques propositions. Je vais vous les donner. Ensuite, une question pour notre invité. Alors, la première proposition, d'abord, la protection des civils. La protection, que ce soit des hommes politiques, est comme à l'État. Cette responsabilité est confiée à l'État. L'État doit faire tout pour manifester sa bonne volonté de promouvoir la protection des défenseurs des droits de l'homme. Si un activiste des droits de l'homme est arrêté quelque part pour avoir dénoncé les vices, pour avoir dénoncé les mal, la population de ces milliers doit nécessairement se manifester, par exemple en faisant la marche pacifique, voire même la marche des colères. Et une question maintenant pour que tu à notre invité, est-ce qu'il n'y a pas moyen, est-ce qu'il n'y a pas une autre voie pour faire pression au gouvernement afin d'appliquer la loi qu'ils ont votée en faveur des activistes des droits de l'homme? Je vous remercie,
monsieur. Merci Jean, mais la loi n'a pas encore été votée, adoptée, parce qu'il faut qu'elle soit adoptée au niveau du Parlement et promulguée par le chef de l'État. On n'est pas encore arrivé à cette étape-là. Il y a eu d'abord des discussions, présentation de la loi par le ministre, l'ancien ministre Luzo Lomami, présentation du texte, débat au niveau de l'Assemblée nationale et le mandat a pris fin. On a une belle Assemblée. C'est pourquoi notre invité a dit qu'il faudrait revenir là-dessus, que cette loi soit, qu'on débatte et puis qu'on puisse l'adopter, voter, adopter et promulguer par le chef de l'État. Mais vous avez dit qu'il faut d'abord hein, que l'État prenne la charge de la protection de toute la population, y compris les acquis des droits de l'homme, mais aussi vous pensez qu'il serait mieux quand il y a un acquis des droits de l'homme qui est arrêté injustement quelque part, que la population de cet endroit se manifeste pour réclamer sa libération. Mais un point dans votre introduction, c'est l'attitude des animateurs des institutions par rapport à la dénonciation, tout comme la vérité hein, c'était, a été dit par notre ami des Chiléniers. Merci beaucoup. Nous revenons à Kinshasa. Jean, vous êtes avec nous? Jean, vous êtes en ligne de Kinshasa. Bonjour, Jean.
Bonjour. Bonjour, frérot.
On vous écoute. Jean, vous avez suivi plusieurs propositions par rapport à la protection des défenseurs des droits de l'homme, ce qui est le sujet dans cette émission. Et votre point de vue?
Bon, frérot. Une question cruciale, la protection des défenseurs des droits de l'homme, ça devait être assurée par les institutions étatiques. Parce que ça, c'est exposer un peuple. Le peuple sera exposé, disons, la justice dans notre pays ne marche pas. Et les institutions établies ne respectent pas leur rôle. Maintenant, s'il faut défendre les défenseurs des droits de l'homme, ça doit être au niveau de l'État. Et même, si vous parlez, souvent dans la ville de Kinshasa, nous voyons des panneaux, des tableaux où on recrute les gens pour la formation aux droits de l'homme. Toutes ces formations-là, ça n'a pas d'effet sur notre justice, ça n'a pas d'effet sur la défense des droits de l'homme, parce que la justice même, elle-même est biaisée. Les garants, ceux qui sont appelés à garantir cette justice, ne le font pas. Comment vous pouvez résoudre un tel problème que dans un État où tout est en désordre, qu'il y a des potentats qui font ce qu'ils peuvent faire? L'essentiel est qu'il y ait un cadre, qu'on définisse un cadre au niveau du Parlement, qu'on définisse un cadre au niveau de la politique de notre pays, on définit un cadre, et c'est sur base de ce cadre-là que les défenseurs des droits de l'homme peuvent être protégés.
Merci beaucoup, Jean. Vous pensez que la défense des défenseurs, la protection des défenseurs des droits de l'homme passe aussi par l'efficacité de la justice, mais il faut un cadre sur lequel tout le monde doit se retrouver. Merci beaucoup. Vous êtes ici à Kinshasa. Nous avons Ismaël Angoumbashi au Katanga. Bonjour, Ismaël.
Bonjour, M. Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capitale.
Vous avez suivi les uns les autres. Hein. Il y a plusieurs auditeurs qui sont revenus, qui ont pensé que le problème de la loi LC ne va pas suffire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. Notre ami de Kinshasa Jean vient de dire qu'il faut aussi un cadre, n'est-ce pas, de concertation entre le pouvoir public, les parlements, tout cela. C'est ce qui peut amener vraiment à protéger effectivement les défenseurs des droits de l'homme. Votre point de vue, Ismaël?
Oui, je tiens vraiment à remercier notre invité et les auditeurs qui m'ont précédé. Mais je devais aussi proposer en sorte à ce que les droits de l'homme ou les défenseurs des droits de l'homme, quand celui qui mange bien, dort bien, se réveille encore bien, si ce genre de personnes est protégé, d'abord, si elles sont victimes de dangers, qui sont d'une part d'autres capturés et tués, à combien plus fortes raisons il pourrait aussi avoir le courage de défendre aussi l'humanité en général. Pour moi, je devais envisager en sorte à ce qu'il n'y ait pas la complicité entre les hommes politiques et les défenseurs des droits de l'homme. Je demandais d'abord la question si ces genre de personnes font partie de la politique. Donc pourquoi, quand tu défends aussi un civil, soit quand tu défends aussi l'humanité, ils sont poursuivis, capturés d'une manière à une autre. Pour moi, j'imagine aussi à combien plus fort les défenseurs des droits de l'homme, même s'il a été tué, il a été poursuivi même en Belgique, j'ai suivi une fois à la radio, comment ces gens peuvent avoir aussi une liberté et une sécurité absolue à ce qu'ils parviennent aussi à défendre aussi la société et l'humanité en général. Et j'ai proposé encore à ce que s'il y a des conflits politiques ou une zone rouge, ça sera très difficile. Alors, si on enlève d'abord les conflits politiques et la guerre, à cela, les défenseurs des droits de l'homme pourraient aussi
viennent nous défendre et ils seront aussi en sécurité. J'ai trouvé aussi des différents mouvements qui surgissent aussi au sein de la République démocratique du Congo. Quels qui sont nos machines, nous avons un mouvement qu'on appelle Isnapet. C'est un défenseur des droits de l'homme qui défend en quelqu'un à son retour à la maison. Il faut aussi tirer beaucoup d'attention à ce genre de mouvement parce qu'ils sont absolument les autorités compétentes administratives ou politiques ne peuvent rien faire ou ils n'ont aucune emprise sur eux. À cela, il faut instaurer aussi une manière ou une stratégie simple afin de les rassurer une sécurité absolue.
Merci, merci Jean. Merci Ismaël. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Il faudrait aussi qu'il n'y ait pas de complicité entre les défenseurs de droits de l'homme et les acteurs politiques. Et ça peut aussi les amener à leur protection. Plusieurs propositions. C'est très important. Vraiment, nous avons aussi voulu savoir si les activistes des droits de l'homme peuvent être aussi engagés politiquement. C'est votre question. Notre invité pourra répondre à cette question. Jean-Paul est ici à Kinshasa, dans la capitale. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je profite de cette occasion aussi pour saluer tous les auditeurs. Et je félicite mon papa Joseph Lomé.
Voilà. Mais je pense
qu'il faut qu'il y ait une loi qui protège ces gens-là. Parce que ce sont des gens qui font un grand travail. Ils sont là, ils défendent tout le monde. Il faut qu'il y ait une loi. Pour moi, je demanderais l'implication, comment l'implication sociale de l'Assemblée nationale. Bon, on voit qu'il y a une loi qui est là pour protéger les gens qui font un grand travail. Ce sont nos messieurs, ils sont là. Ils meurent pour nous. Mais il faut qu'il y ait une loi qui les sécurise, une loi qui va les sécuriser, une loi qui va les protéger. C'est ça ma contribution vraiment.
Voilà, merci beaucoup Jean-Paul. Vous pensez que vu la grandeur du travail abattu sur le terrain par les défenseurs des droits de l'homme, la loi s'impose, une loi spécifique pour la protection s'impose. Nous avons aussi quelques messages qui sont arrivés à travers la boîte PA et aussi la page Facebook de Parole aux auditeurs. Ingénieur Victor Kiaïsiro, la RDC a fait des avancées énormes dans le secteur des droits humains, mais il existe quelques grands messieurs hautement placés, on veut dire, des gens qui sont dans les institutions, qui sont sous la protection des autres institutions. Par exemple, il dit un membre du gouvernement qui peut être protégé par la présidence de la République et dans ces cas, il sera difficile de pouvoir les traduire en justice et dans ces cas, ça va beaucoup plus peser sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Galvani Tchouk, qui est en Mbujimayi, Kasai-Oriental, c'est bon, mais quand le gouvernement considère la vérité comme un crime, il est toujours difficile de croire que le gouvernement peut faire certaines avancées en matière de protection des défenseurs des droits de l'homme. Et aussi Nestor Mirugi, à Kisangani, ces ONG doivent d'abord faire des plaidoyers auprès de la communauté internationale, la fameuse communauté internationale, pour demander bien sûr au Rwanda et tous ceux qui soutiennent les mutins en RDC de pouvoir faire de tout leur mieux pour mettre fin à la guerre de l'Est. Voilà, ça c'est un message de Nestor Kisangani qui demande aux ONG de défense des droits de l'homme de pouvoir faire des pressions sur la communauté internationale en vue de la cessation des hostilités à l'Est de la République démocratique du Congo. Étienne et Jérémy, vous allez garder à la ligne, on pourra revenir à vous après un commentaire de notre invité sur ce que les auditeurs viennent de proposer.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Fernandez Mourola, il y a ces préoccupations des auditeurs par rapport aux acquaintances, à des liens entre les acteurs politiques et les activistes des droits de l'homme. Ça peut fragiliser le travail qu'ils font, mais est-ce qu'ils peuvent aussi être engagés politiquement? C'est une proposition, une question de notre ami Ismaël de Lubumbashi, mais il y a aussi Jean de Kinshasa qui est revenu sur les cadres, n'est-ce pas, qui peut réunir les uns et les autres, mais il y a déjà ces cadres de concertation qui est instauré par le ministre Luzolo Bambi. Est-ce que dans ces cadres de concertation, ça vous a quand même permis d'avoir des avancées sur ce problème de la protection des défenseurs des droits de l'homme?
Oui, merci pour les deux questions. Je remercie aussi les auditeurs qui ont posé ces questions. En fait, selon notre code d'éthique et de déontologie, un défenseur des droits de l'homme ne peut en aucun cas s'engager politiquement. C'est vraiment incompatible. Donc, lorsqu'on veut s'engager politiquement, on cesse de parler comme défenseur des droits de l'homme. Ça, c'est un. Mais il est vrai qu'un défenseur des droits de l'homme peut avoir des liens avec tous les acteurs politiques au regard du fait que nous les défendons. Je vais vous donner par exemple l'exemple. Pendant la campagne électorale, nous avons défendu plusieurs députés, des candidats députés nationaux qui étaient en difficulté dans leur circonscription électorale. Et quand ils ont été élus, ils sont passés à nos bureaux pour nous remercier. Parce que si c'était notre intervention, peut-être qu'ils allaient mourir pendant la campagne. Donc ce sont des situations qui arrivent, mais ce ne sont pas des liens. Un bon défenseur de loi, l'homme ne doit pas avoir des
accusations politiques.
Pas du tout, pas du tout. Il doit être resté au milieu du village parce qu'il est appelé à défendre tous les Congolais, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition, que ce soit les humanitaires, les journalistes, il défend tout le monde, sans tenir compte de quoi que ce soit et sans demander quelque chose. Retour. Ça, il faut le préciser.
Les actions des Français allemands ne sont pas rémunérées.
Elles ne sont pas rémunérées, ce sont des actions bénévoles. À part ça, il y a la question qu'on a posée.
C'est le cadre des concertations.
Le cadre des concertations qu'on appelle l'entité nationale de liaison des droits de l'homme. Et donc, ce cadre existe bel
et
bien.
Et cela permet d'avancer sur la
protection des Français. Oui, ça nous a permis au moins d'avoir des moments pour parler directement avec toutes nos autorités, pour échanger avec les autorités, si les préoccupations majeures des droits de l'homme. On échange, on prend des résolutions, mais la mise en œuvre des résolutions de l'entité de liaison, souvent, certes, on n'arrive pas à réaliser. Par exemple, depuis plus de 6 mois, nous sommes en train de réclamer qu'on recrée une session de l'entité nationale de liaison des droits de l'homme, mais personne ne convoque pas. Alors que c'est les prérogatives du Premier ministre et de la ministre en charge de la justice et des droits humains. Et en plus de ça, la même entité nationale de liaison des droits de l'homme a été décentralisée en province. Et au niveau de chaque province, c'est le gouverneur de province qui est le président de l'entité provinciale de liaison des droits de l'homme. Mais tous nos gouverneurs de province, malgré qu'ils ont été inscrits au niveau national, n'arrivent pas à convoquer les entités provinciales de liaison des droits de l'homme. On ne sait pas pourquoi.
Nous allons écouter les deux derniers auditeurs, parce que là, on est pressé par le temps pour conclure cette émission. Etienne est à Guéménage. Jérémy est à Tioumia, c'est en province orientale. Etienne, on commence avec vous. Est-ce qu'en 40 secondes, Etienne, vous pouvez résumer votre point de vue par rapport à cette question autour de la protection des défenseurs des droits de l'homme? On vous écoute, Etienne.
Ok, merci à tous les auditeurs de la radio Capi. Je voudrais dire ceci, monsieur le journaliste, sauf que le temps ne sera pas nombreux. Bon, vous savez que tout ce qui entoure la protection des droits de l'homme, c'est la mauvaise volonté de nos dirigeants. Parce que s'il y avait la volonté, ils pouvaient déjà créer une loi, adopter une loi, pouvant sécuriser les défenseurs des droits de l'homme. Alors, la démocratie dont on chante en République démocratique du Congo, comment on pourra le faire sortir pendant que les défenseurs des droits de l'homme sont pourchassés comme des bêtes? Ils sont arrêtés illégalement, torturés et emprisonnés. Donc, par là, nous sentons qu'il n'a pas la volonté, comme le vient de dire l'invité.
Voilà.
Donc, je voudrais illustrer un cas de Sorivek Sebeya, qui a été tué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, on n'a pas une précision sur sa mort. Donc, voilà que la volonté n'y est pas. Donc, c'est le
président qui
a la volonté vraiment de dire
voilà.
Merci,
Etienne. Vous pensez que tout se résume par la volonté politique des acteurs politiques qui dirigent le pays et de pouvoir arriver à la protection des défenseurs des droits de l'homme. Jérémy, vous avez 30 secondes pour votre point de vue qui va clôturer cette émission au nom des auditeurs. On vous écoute, Jérémy.
Oui, bonjour la radio Okapi, bonjour les auditeurs de la radio Okapi. Justement, c'est Jérémy de la province orientale. La question qu'on est en train de débattre, je pense que c'est une question capitale parce que nous voyons qu'aujourd'hui, la RDC, les défenseurs des droits de l'homme sont sérieusement maltraités. Alors, je voulais juste poser des questions.
Allez-y rapidement, oui.
Jour. Je voulais poser la première question qui est, quand on parle de la protection, pour les défenseurs des droits de l'homme. Qui viole les droits de l'homme? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question. Donc, la deuxième question, je voulais poser.
Allez-y rapidement, oui, Jérémy.
Oui, je voulais poser la deuxième question. La première question, qui viole les droits de l'homme? Et qui doivent respecter les défenseurs des droits de l'homme? Je pense qu'il y a cette question.
Voilà.
Ce sont les autorités congolaises. Alors, il y a un proverbe qu'on ne doit pas oublier.
Oui, Jérémy, on ne saura pas les plus là. Jérémy, vous avez posé les deux questions. On a aussi 1 minute et demie pour que l'invité puisse répondre. On ne saura pas vraiment, malheureusement, écouter les proverbes. On revient directement à vous, Fernandez Mourola, parce qu'on va clôturer cette émission. On a écouté les uns et les autres. Il y a deux questions de savoir qui viole les droits de l'homme qui doivent le respecter, les formes de la volonté politique. En un mot, qu'est-ce qui peut être retenu par rapport à cette émission autour de la protection des défenseurs des droits de l'homme?
Oui, en fait, merci beaucoup pour l'ensemble des questions. Qui violent les droits de l'homme? Ce sont les préposés de l'État qui violent généralement les droits de l'homme. Ça, c'est ça la réponse. Donc ça, c'est pas les préposés de l'État, c'est tout ce qui représente l'État d'une manière ou d'une autre, de la base au sommet. Qui doit respecter les droits de l'homme? C'est tout le monde sans distinction. C'est tout le monde qui doit respecter les droits de l'homme, qu'il soit citoyen, n'importe qui soit autorité, tout le monde est appelé à respecter les droits de l'homme. Il n'y a pas de volonté politique, ça c'est vrai, il n'y a pas de volonté politique, c'est pourquoi les droits de l'homme ne sont pas respectés dans notre pays. Et ce que nous pouvons dire en conclusion, c'est pour dire qu'il est urgent que notre pays se dote d'une politique nationale des droits de l'homme. Il est important qu'on redynamise l'entité nationale des liaisons des droits de l'homme, qui est un cadre de concertation au niveau national et au niveau provincial, des acteurs des droits de l'homme et les acteurs publics. Il est important que l'Assemblée nationale qui nous écoute en ce moment puisse prioriser l'adoption de la loi portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme.
On doit en principe les protéger.
C'est toutes les institutions qui sont appelées à le faire.
À protéger les défenseurs des droits de l'homme. Oui. Comme on protège l'ensemble de la
population. En fait, c'est l'État. Le gouvernement, c'est au gouvernement qui revient le rôle principal de protéger tout le monde, y compris les défenseurs des droits de l'homme. Et à part ça, il est urgent que notre gouvernement, au niveau du Parlement, j'allais dire, et qu'on adopte la loi sur la Commission nationale des droits de l'homme, et le statut de mise la loi de mise en œuvre du statut de Rome, et ainsi que la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle est indispensable dans notre pays. Voilà. On puisse aussi revisiter la composition de la haute cour militaire parce qu'il y a beaucoup de généraux qui ont commis des crimes de guerre et qui doivent répondre au niveau de la haute cour militaire. Donc il faut qu'il y ait des généraux qui ont des grades de lieutenant général pour que tous les généraux, les policiers et militaires qui ont commis des crimes répondent à ce niveau-là.
Merci beaucoup Fernandez Mourola d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le secrétaire exécutif national de RENADOC qui est le réseau national des zones des droits de l'homme. Merci à l'ensemble des auditeurs pour leur fidélité à l'émission Parole aux auditeurs.
Allô? 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 Qui ne répond pas?
On se retrouve demain, vendredi, pour le dernier numéro de la semaine consacré au sport. À 16 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Londres, les athlètes congolais ne sont pas toujours fixés sur leur déplacement. Le cabinet du Premier ministre, Augustin Matata-Ponyo, et le comité olympique congolais discutent encore sur la taille de la délégation congolaise. La primature l'a réduite à 25 personnes sur les 57 proposées par le comité olympique congolais. Quelle analyse faites-vous de cette situation? On se retrouve demain. Et pour le moment, merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Au revoir.
Radio Okapi.
12h à Kinshasa, le journal avec Belinda Bossuma. Okapi.